tous les lundis, Simon de Snake Boisvert du podcast Le Processus sur la commission athlétique avec Mathias Brunet. Simon, comment vas-tu?
Ça va très bien, merci. Et toi, Tony?
Ça va très, très bien. Comment a été la fin de semaine pour Ivan Demidov?
Ben, la fin de semaine a bien été. Elle a commencé jeudi avec son premier match. Et ça s'est poursuivi samedi. Dans les deux cas, il a joué environ 14 minutes. Puis moi j'ai été impressionné parce que je trouve que ce gars-là, il est très dynamique. Tu sais, moi, j'accorde beaucoup d'importance à un joueur qui bouge constamment sur la glace et non pas quelqu'un qui reste carrément dans son corridor, surtout pour un ailier comme Demidov, ou qui a les deux pieds plantés dans le ciment puis qui il commence à patiner quand le jeu s'en va en zone adverse. Demidov, là, comme on dit, pour paraphraser une expression anglaise, là, il y a un moteur. Là, il y a un moteur qui roule constamment. Puis je te dirais que c'est ça que j'ai remarqué le plus parce qu'écoute, ses mains, on le sait, il y a des mains en or. Puis, tu sais, on connaît son sens du jeu, mais vraiment le fait qu'il était très, très impliqué là, dans sa zone, dans la zone centrale, dans la zone adverse, moi, c'est ce que j'ai aimé voir le plus parce que dans la LNH, si tu veux réussir, c'est une condition sine qua non.
Il y a quelque chose que pas beaucoup de joueurs des Canadiens ont ou ont eu dans le passé. Créativité, imagination, puis écoute, d'après ce qu'on a vu à date, tout son talent, on l'a vu, on entend, il risque d'être le joueur le plus créatif du Canadien depuis Kovalev à l'attaque.
Oui, puis je pense que sa carrière va être, c'est-à-dire sa, comment dirais-je, son apogée va être plus long que celui de Kovalev à Montréal.
Ça, c'est sûr.
Parce que Kovalev, il a passé quelques saisons à Montréal, mais combien de temps il a vraiment électrisé la foule? Tu sais, c'était un gars quand même qui il prenait des soirs de congé.
Ben oui.
Puis Demidov n'a pas l'air du tout de ce genre de joueur-là.
Lui, dans le temps, Kovalev disait qu'il était comme un cheval, puis il pouvait pas courir à 100% à tous les jours, mais il fallait qu'il sauve son énergie pour la course finale. Tu sais, mais quand tu as des abonnés de saison là, qui vont payer 500$ la shot pour aller voir un match du Canadien, là, et toi, tu décides pas de te présenter parce que tu veux te présenter un fois par quatre matchs. C'est dommage parce que si Kovalev aurait joué à la hauteur de son talent, il aurait été parmi un des meilleurs joueurs de la Ligue et pas dans la deuxième catégorie de joueurs dans la Ligue. C'est vraiment dommage. Puis encore une fois, une autre chose, quand tu vas bien avec un club, tu marques 35 buts, tu marques 84 points, la foule t'adore, là. Vends-toi pas au sénateur d'Ottawa pour quelques centaines de milliers de dollars de plus, là. C'est vendu,
ouais.
Là.
Oui, je me rappelle de cette saison-là.
Ben oui, arrête, là.
C'est la folie Kovalev. Tu sais, les gens ont besoin de se mettre quelque chose sur la dent parce que depuis une trentaine d'années, honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup d'attaquants électrisants à Montréal. Puis, je pense que là, ça s'en vient très, très bien. On a parlé aussi de Patrick Laine qui s'en vient. Je ne sais pas combien de temps il va rester ici. Lui, c'est un autre genre de joueur, mais lui aussi peut faire soulever la foule de temps en temps. C'est lancé puissant dans l'enclave. Je pense qu'il devrait en mettre une bonne trentaine dedans cette année, si ce n'est pas 35, là, s'il n'est pas blessé. Alors, vraiment, le Canadien est en train de, tranquillement pas vite, se former un vrai top 6.
Hey, tu sais que Kovalev, à un jeune âge, on lui a dit qu'il y a des fortes chances que tu ne jouerais jamais du hockey professionnel. Là. Parce que lui, il y a une malformation cardiaque.
Oui.
Oui, il m'avait dit ça, qu'il y avait une malformation cardiaque, dont le fait qu'évidemment, il a joué. Et il était vraiment dans une bonne forme à la fin. Là, ce gars-là, là, il aurait pu jouer jusqu'à l'âge qu'il voulait, là, s'il voulait. Là. Et c'est tellement une machine, ce gars-là. Il a fait tellement fort. Là. Il me faisait penser un peu à Guy Lafleur, parce que Lafleur, il était plus fort puis plus gros que plusieurs personnes pensaient. Il avait des mains, là, quand tu serrais la main à Guy Lafleur, là, ta main faisait mal, tu sais. Kovalev, c'était la même chose. Là. Il était fait solide, Kovalev. En parlant de solide, là, Demidov, il a encaissé un solide mise en échec, par exemple, le samedi. Oui. Puis on a vu, tu sais, le risque avec des joueurs qui aiment manier la rondelle, il y a une habitude comme quoi, quand, durant leur jeunesse, ils étaient tellement bons, ils pouvaient faire n'importe quoi, mais quand le jeu devient plus vite, il faut que tu gardes la tête haute. Puis essaye pas de garder la tête haute samedi. Puis c'est fait, écoute là, chance que il s'est fait comme donner une mise en échec par de côté et pas vraiment en plein face là, parce que, écoute, ça fait mal. Là. Puis ça aurait pu être une commotion.
Non, non, mais ça, écoute, c'est des avertissements que c'est mieux que ça arrive tout de suite que ça arrive dans la Ligue nationale, là, honnêtement. Alors là, il l'a vu. J'espère que son coach en a parlé avec lui puis qu'il va faire attention à ça parce que tu veux pas que le gars se retrouve avec 2-3 commotions cérébrales à l'âge de 21 ans.
Tu sais, on a vu Slavkovski, là, si je peux, Simon Slavkovski. Me semble, c'est Nicolas Cloutier de TVA Sport nous avait dit que, pas cet été, mais l'été avant, il faisait de l'entraînement avec les lunettes visuelles, virtuelles, et pour voir les images comme quoi, à la dernière seconde, pour voir comment lui il allait réagir, et ça lui a beaucoup aidé. Hein? Ça lui a beaucoup aidé. Donc, peut-être que ça pourrait être une idée pour Demidov.
Ben oui, les outils de nos jours sont excellents. Que même si tu n'es pas sur la glace en train de jouer des matchs l'été, ou même être sur la patinoire, tu peux tranquillement, pas vite, t'améliorer là, sur des aspects comme ça. Parce que le talent brut, oui, tu ne peux pas l'enseigner. Mais ensuite, il y a des petites choses que tu peux faire qui vont faire en sorte que tu vas passer de très bons joueurs à un joueur étoile. Puis ça en est une là-dedans. Demidov aussi, une chose où il va falloir qu'il fasse attention, il patine avec les jambes très écartées. Alors, il faudrait qu'il fasse attention aussi que les défenseurs, à un moment donné, ne le ciblent pas dans les genoux. Je dis ça comme ça.
Ouais.
Ça, c'est quelque chose auquel il va falloir faire attention. Mais si ce gars-là n'est pas blessé, là, ça va être un perpétuel pointeur de 90 points avec le Canadien, d'après moi.
Et son deuxième match était moins fameux que son premier match. Par contre, il faut dire, il a frappé le poteau 2 fois. Hein?
Oui, moi, je trouve qu'il a très bien joué dans son deuxième match. Ben, t'sais, on ne peut pas s'attendre à ce que le gars nécessairement transporte la rondelle à chaque présente sur la glace, surtout que c'est un ailier, puis il joue sur le troisième trio. Alors, t'sais, on l'amène tranquillement, mais je pense qu'on le développe très bien. Il y aurait supposément eu des discussions là, entre Kent Hughes et puis les dirigeants là, de l'équipe, Scott. Puis je pense que Demidov, c'est très bien ce qu'on fait, parce que souvent, les joueurs de 19 ans dans la KHL, on les fait jouer 4 minutes par match. Et là, ils perdent leur saison au complet. Si on l'envoie puis on lui fait jouer 22-23 minutes, c'est peut-être trop. Mais je pense qu'à 14 minutes comme ça, et il joue avec Kuznetsov, Evgeny Kuznetsov, c'est très bien. Je pense que ça va être un développement, une année de développement idéale pour lui. Puis l'année prochaine, il va faire l'alignement du Canadien puis probablement va être un candidat au titre de recrue de l'année.
On est lundi. Dans 2 jours, c'est le camp des recrues du Canadien de Montréal. Et il va y avoir des tests médicaux, des tests physiques à Brossard mercredi. Les espoirs des Canadiens vont affronter les Maple Leafs de Toronto, leurs espoirs, lors de 2 matchs disputés au Centre Bell le 14 et le 15 septembre dans le cadre du face-à-face des espoirs. Et le camp va se terminer le 17 septembre, un jour évidemment après le tournoi de golf qui va être le 16. Et il y a 24 joueurs qui vont participer au camp du recrue, 14 attaquants, 7 défenseurs et 3 gardiens. Je te nomme les joueurs, puis ensuite, je vais te demander quelques questions à leur sujet. Ouais. Attaquants, Owen Beck, Jared Davidson, Sean Farrell, Emil Heinemann, Riley Kidney, Justin LaRose, Philippe Méchard, Israel Mienskom, Logan Nijoff, Maxime Pellerin, Charles Savoie, Tyler Thorpe, Luke Tuck et Florian Jacquet. On va commencer avec les attaquants, OK? Oui. Qu'est-ce qui se passe avec Emil Heinemann? L'an passé, il m'a vraiment déçu. On parlait comme quoi il y avait un lancer de la Ligue nationale. Il a été rappelé quelques matchs, puis honnêtement, il ne m'a pas impressionné et pas du tout. Est-ce que c'était quelqu'un à qui toi tu crois encore à non. cause de son lancer? On pourrait le voir dans la Ligue nationale?
Pas de façon régulière. Je ne vois pas ce gars-là avoir une carrière dans la Ligue nationale. Évidemment, ça peut être un gars qui devient un joueur de rappel occasionnel en cas de blessure. Mais je ne pense pas que sur 82 matchs, tu peux fonctionner simplement avec un lancé. Tu sais, puis surtout que là, j'imagine que lui, ça serait un joueur de troisième, quatrième trio. Là, aucunement, ça peut être un joueur top 6. Alors pour moi, c'est un gars sur qui j'ai fait une croix. Peut jouer quelques matchs dans la ligue, mais je le vois pas faire grand-chose, malgré qu'il y a 2 ans, il y avait eu une bonne saison à Laval.
On sait que Sean Farrell a beaucoup de talent. On n'est pas encore convaincu s'il est un joueur de centre ou un ailier. Est-ce que, à ton avis, Sean Farrell peut être un joueur qui peut avoir une carrière dans l'Ligue nationale ou tu penses que c'est un genre de joueur qui peut-être va être trop bon pour la Ligue américaine, pas assez bon pour la Ligue nationale? À la Corey Locke.
Au départ, ça a l'air de ça. Hein? Ce qu'on appelle en termes de baseball un joueur 4A. Autrement dit, trop fort pour le 3A, mais pas assez fort pour les lignes majeures. Mais là, Sean Farrell, oui, il a beaucoup de talent, mais il a quand même 23 ans. Puis honnêtement, Tony, est-ce que tu peux dire qu'il domine la Ligue américaine? Même pas. Alors, éventuellement, peut-être, à l'âge de 25-26 ans. Mais à ce moment-là, à l'âge de 25-26 ans, ben, tu deviens un joueur de carrière de la Ligue américaine. Puis tu peux te faire un bon salaire. Il y en a qui sont payés des 300-400 000 par année. Mais encore là, il va falloir que Farrell se mette à produire pour devenir un top joueur à Laval. Puis je pense que pour la LNH, il n'est pas assez fort physiquement. Et oui, il a du talent, mais son talent et sa production, d'après moi, ne peuvent pas compenser pour l'absence de gabarit. Alors, d'après moi, Farrell, malheureusement, parce que j'ai toujours bien aimé cet espoir-là,
ouais.
Malheureusement, Farrell, d'après moi, il est destiné à la Ligue américaine.
Le Canadien vient d'annoncer, on savait déjà, on avait entendu parler déjà, mais un nouveau tableau indicateur.
Ouais, nouvel écran géant au centre, ouais. Au centre de la glace du Centre
tant
Bell.
Tant mieux. T'aimes-tu ça, l'aréna? T'aimes-tu ça?
J'aime beaucoup le Centre Bell. J'aime l'ambiance qu'il y a dedans.
Ouais.
T'aimes pas le Centre Bell?
Faut faire quelque chose avec les corridors.
Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Par rapport à d'autres arénas, tu sais, on est allé au UBS Arena, ouais. Avec les gars du matin l'an dernier. C'est pas le même type d'amphithéâtre, on s'entend.
Et deux avec le stationnement. L'entrée, là, un rentré, un sorti, mais on va en parler. On a amplement de temps, mais on a Simon de Snake Boisvert, notre collaborateur à tous les lundis. Snake, j'aimerais te parler d'Owen Beck. Parce que ce gars-là, il a mis de la musculation. On sait qu'évidemment, il était très fort dans son dernière année junior. Là, on imagine qu'il devrait faire peut-être minimum un an à Laval avant de faire le gros saut. Par contre, ce gars-là, c'est le genre de joueur que les entraîneurs adorent. Hein? C'est vraiment un bon cerveau sur la patinoire. C'est un bon joueur d'équipe. Il est extrêmement intelligent, bon défensivement. Il gagne beaucoup de mises en jeu. Est-ce que ce gars-là pourrait être un gars qui éventuellement va prendre la place d'un Jake Evans au sein du quatrième trio, selon toi?
Oui, ça, c'est une forte possibilité. Moi, cependant, je ne le vois pas plus haut qu'un quatrième trio. Et ça, je sais que souvent, Beck est mentionné comme un possible centre de troisième trio à Montréal. Moi, je pense que le jour où le Canadien sera un prétendant à la Coupe, il va y avoir des meilleures options que ça, comme par exemple Michael Hage, qui a été repêché cette année. Et déjà, on a Doc et Suzuki en avant. Alors, pour moi, Beck, c'est un quatrième trio. Ça pourrait faire un bon joueur de quatrième trio, mais je ne le vois pas avoir assez de potentiel offensif pour jouer plus que peut-être un 8-10 minutes par match, là, maximum. Mais c'est un candidat, justement, pour les raisons que tu as données. Puis, c'est normal, c'est un choix de début de deuxième ronde. Au choix de début de deuxième ronde, il faut s'attendre à repêcher des joueurs de soutien comme ça. Alors, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais je vois peut-être pas Beck aussi gros que certains.
Simon, c'est Alex qui te pose la prochaine question. Je suis curieux de t'entendre sur, un, Florian Jacquet, mais deux aussi sur Luke Tuck. Tu nous as parlé de troisième, quatrième trio. Lorsque je suis allé couvrir le camp des recrues l'an dernier, un des joueurs qui, moi, m'a le plus impressionné, c'est Luke Tuck. Par son gabarit, par sa présence sur la patinoire, qu'est-ce que tu vois pour ce gars-là dans le futur?
Ben, tu m'enlèves les mots de la bouche parce que l'année passée, je suis allé voir jouer en personne parce qu'il jouait avec Lane Hutton et McLean Celebrini. Alors, ça donnait une occasion, tu sais, de voir tout ce beau monde-là. Puis, j'ai remarqué la même chose que toi. Il y a eu une très forte présence, bien que dans la NCAA, c'est normal parce que, bon, c'est pas la Ligue nationale. Là, il était vraiment une coche au-dessus des autres au point de vue physique. Et moi, une chose que j'ai bien aimée, c'est son lancer. Il a un lancer foudroyant. Et ça nuit pas. Quand tu joues sur un quatrième trio, tu sais, un quatrième trio, si tu peux marquer 4-5 buts par année, là, c'est déjà bien.
Ben, c'est un peu ce que tu vas aller chercher, c'est sûr.
C'est ça. Moi, je pense que Tuck, c'est vraiment un plafond pour lui, un quatrième trio. Là, il n'y a même pas de garantie que ce gars-là va jouer 300-400 matchs dans la Ligue nationale. Mais je pense que c'est un joueur à développer pour jouer ce rôle-là. Encore là, 7-8 minutes par match, quelques buts par année, gros physique. Moi, je ne l'aille pas, mais comme je t'ai dit, c'est, plafond offensif est tout limité quand même, mais un candidat pour le quatrième trio éventuellement, mais certainement une année à Laval, là, ça c'est certain.
C'est pas le type de joueur parfait pour le quatrième trio de la Ligue nationale actuelle? Un gros gabarit capable de s'imposer avec un bon lancer. Le profil de joueur, pour moi, est idéal.
Lui est Jack High.
Exactement.
Quand le Canadien va être très compétitif, Simon, d'ici quelques années, là, tu vas voir Luke Tuck et Florian Jack High vont être sur le quatrième trio des Canadiens.
Écoute, Florian, j'attends de voir sa saison à Laval avant de me prononcer, mais je te dis pas non.
Mais t'as-tu des doutes que Florian Jack High va être sur un quatrième trio des Canadiens un jour?
J'ai toujours des doutes avec les joueurs comme ça, étiquetés quatrième trio. Parce que regarde l'histoire, regarde toutes les autres équipes. Tu sais, c'est très, très rare que tu vas avoir des joueurs qui vont arriver à 20 ans. On va dire, ah, ça va être un futur joueur quatrième trio et que le gars finalement va jouer 3, 4, 500 matchs. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de rotation au sein de ces trios-là. Il y a beaucoup de joueurs qui sont signés au mois de juillet pour un an, pour 2 ans. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver. Tu sais, il y a toujours quelqu'un qui pousse dans le dos pour prendre ta place. Il n'y a rien d'assuré. Alors moi, je ne peux pas garantir un poste de quatrième trio à personne parce que c'est une position, moi, que je trouve très précaire. Si tu es un joueur de hockey, c'est une position très précaire à laquelle évoluer.
Philippe Méchard, as-tu lancé la serviette ou c'est trop
Oui.
tôt?
Oui. Je vais te dire pourquoi j'ai lancé la serviette.
Aïe, aïe, aïe.
Aïe. Ouch.
T'as
Philippe
pas beaucoup de
Richard.
patience, toi?
Pardon?
T'as pas beaucoup de patience?
Ben, c'est que c'est quoi? Moi, la courbe de progression, Tony, c'est extrêmement important pour moi, à partir du moment où un joueur est repêché. Déjà que j'étais pas fou de Méchard au repêchage, là, moi, je me serais attendu à plus. Tu sais, le gars, il va jouer dans la Ligue de junior à 18 ans, il domine pas. Et là, à 19 ans, on lui donne la chance de faire le Rocket, comme les joueurs européens ont le droit de jouer dans la Ligue américaine. Ceux qui ont été repêchés à partir de l'Europe peuvent jouer dans la Ligue américaine à 19 ans. Le gars a une chance en or, il ne saute pas dessus. On le retourne dans la Ligue de l'Ontario. Là, il fait bien, mais là, rendu à l'âge qu'il était rendu, avec l'expérience qu'il avait, c'était normal. Et moi, je veux dire, qu'est-ce qu'il joue contre Méchard à Montréal? Je ne sais pas il pourrait se trouver une niche ailleurs, surtout s'il y a des clubs d'expansion qui s'en viennent des prochaines années. Mais à Montréal, ce qui lui nuit, c'est que Méchard, il faut que ça soit un top 6. Alors vraiment, là, regarde le top 6 du Canadien, regarde les joueurs qui s'en viennent, puis dis-moi que Méchard a une possibilité d'être un des 6 meilleurs attaquants du Canadien, même un des 9 meilleurs dans 2 ans. Moi, je ne la vois pas. Déjà, un gars comme Joshua Roy, il est 100 000 en avant de lui, par exemple. Puis Joshua Roy, là, on parle pas d'un superstar, là.
Ouais, je pense qu'on a vu une progression dans le cas de Méchard si on se fie à ses points. Un point de plus en 7 matchs de moins. Par contre, comme tu dis, un an plus vieux dans l'OHL, il est supposé de faire beaucoup plus que ça. Il a récolté 16 points en 10 matchs en série, puis l'année avant ça, il avait récolté 4 points en 9 matchs. Il y a une légère progression. Par contre, si on considère l'âge, écoute, c'est un gars de 20 ans. Il y en a
Oui.
plusieurs de gars de 20 ans. Puis comme tu dis, lui, qu'est-ce qui fait mal, c'est que il doit être dans le top 6. Sinon, il doit essayer de changer son jeu. Je sais pas si c'est capable de changer son jeu à ce moment-là. Par contre, il y a plusieurs équipes, Simon, ils vont utiliser même 3 bons trios offensifs, là. T'sais, parce qu'avant, dans le temps, là, il y a 20 ans, 30 ans, les premiers 2 trios, c'était des trios offensifs. Le troisième trio, c'est un trio qui allait tenir en échec les meilleurs trios des équipes adverses. Puis le quatrième trio, un trio qui allait compléter leur mise en échec pour donner de l'énergie à l'équipe. Maintenant, il y en a des équipes qui vont avec des bons joueurs de hockey sur le troisième trio aussi. On ne sait jamais. On va
Mais
voir.
moi, Tony, je suis d'accord avec toi.
Ouais.
Moi-même, c'est ce que je préconise. Cependant, encore là, regarde l'avenir du Canadien. Je sais que c'est dur à prédire 2-3 ans à l'avance, un alignement. Mais imagine, mettons, déjà ce troisième trio, là, moi, je verrais Joshua Roy, Alex Newhook, Michael Hage. Mettons.
Ouais.
Bon, ben, ces gars-là, pour moi, sont supérieurs à Méchard. Fait qu'il y aurait même de la misère à faire un top 9. C'est ça, mon point. Moi, j'ai pas. Écoute, comme je t'ai dit, peut-être dans un club d'expansion ailleurs, peut-être les futurs Nordiques de Québec, là, je ne sais pas, mais pas le Canadien. Je vois pas Philippe Méchard avec le Canadien dans un top 9.
À la défense, Adam Ekstrom, Lane Hudson, Logan Mailloux, David Reinbacher, ce seraient les noms les plus populaires. Moi, je dois te dire, là, j'ai vu Ekstrom l'année passée, puis j'ai bien aimé.
J'aime beaucoup Engstrom, surtout au rang de repêchage lequel il a été choisi. Ça a été une belle surprise pour moi. Je pense que ce gars-là a peut-être une chance de devenir un défenseur de troisième paire à Montréal, à gauche. Ça va dépendre qu'est-ce qui arrive avec bon Mike Madison, combien de temps on le garde. Il y a déjà Goulet qui est là, il y a Lane Hudson, tu sais, il y a quand Jaden Struble. Alors, ça sera pas facile pour lui de se faire une place, mais je crois que si on lui donne de la glace cette année à Laval, je pense que ça pourrait être une révélation, ce gars-là. Puis, je sais pas, moi, c'est un genre de petit coup de cœur pour moi. Puis, un gars comme ça, si tu l'as pour un troisième trio, un jeune joueur qui coûte pas cher, repêché en troisième ronde, ben, c'est un pic magistral, là.
OK. Et dans les buts. Quentin Miller, ça dit-tu quelque chose?
Oui, ben oui, Quentin Miller, qui s'en va jouer à Rimouski cette année et
Ouais.
c'est un joueur de 20 ans, c'est correct. Un gardien de but à 20 ans dans le junior, c'est correct. Là. Il n'y a pas besoin d'être dans la East Coast League ou dans la Ligue américaine. Je te dirais, moi, il va avoir la chance de jouer dans la Coupe Memorial. Donc, le gars va jouer jusqu'au début juin. Alors, ça, c'est excellent pour son développement. Et après ça, ben, les gardiens de but, on lance des dards, on en repêche le plus possible. Je crois qu'il va être à Trois-Rivières l'année prochaine. Puis après ça, ben, il en tiendra qu'à lui de monter les échelons. Mais c'est sûr qu'il y a Jacob Dobech en avant de lui. Et il y a évidemment l'excellent Jacob Fowler. Et il y a également le Russe Lovolokhin, qui ne sera pas au camp, mais qui est également un bon espoir. Donc, la route est longue, mais il a juste à arrêter les rondelles, puis il va avoir sa chance.
Simon, on va parler avec toi lundi prochain.
Super, Tony.
Salut mon chum, j'apprécie. On se parle
Bye.
bientôt. Le
Merci,
voilà,
Simon.
Simon de Snake Boisvert, lui et Mathias Brunet, processus, commission athlétique, podcast ici. Check, il y a quelque chose ce gars-là. Hein?
C'est quelque chose. C'est
Et
toujours des opinions, puis c'est toujours intéressant.
tu sais que quand la saison va commencer, là, moi puis lui, j'ai l'impression qu'on va se chicaner
Ben,
assez
j'aime ça,
souvent.
parce que t'aimes l'opinion, j'aime l'opinion,
Oui.
il aime l'opinion, ça va faire la bonne
Ça, il n'y a
radio.
aucun doute.